Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, président fondateur et pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Ça va très bien. Très, très bien. Ça fait du bien, ce genre de chant. On a besoin d'entendre ce genre de chant. Le jour où tu es désespéré, déprimé, tu penses à tu mets ça. Et ce genre de chant, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et c'est pas toujours facile. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Particulièrement quand tu as un rêve, quand tu as une vision pour ta vie. La pire des choses qui pourra arriver à quelqu'un, c'est de ne pas avoir de but pour sa vie. C'est de ne pas avoir une vision pour sa vie. Ça, c'est pire même que la mort. Autant même mourir tout de suite, si tu vis au hasard. Si ta vie consiste simplement à te lever, travailler, bâtir une famille, une entreprise, enfin, tu fais les choses juste parce que, bon, apparemment, c'est comme ça qu'il faut faire. S'il n'y a pas de passion dans ta vie, s'il n'y a pas quelque chose qui te stimule, quelque chose qui te pousse, qui te donne la force de te lever chaque matin, si tu n'as pas de vision, la vie sera fade. La vie est fade. Et il n'y a rien de plus beau que d'avoir une vision pour sa vie. Il n'y a rien de plus beau. Et quand tu as une vision pour ta vie, quand tu as un rêve, au début, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que tu es le seul à porter le rêve. Tu es le seul à porter le rêve. Et après, Dieu envoie les gens pour t'aider à faire sortir le rêve. Mais la partie la plus difficile, c'est la partie où tu es enceinte. C'est comme une femme qui est enceinte d'un enfant. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est elle qui souffre, hein. Le gars, lui, il dort sur ses deux oreilles la nuit, hein. Mais la nuit, c'est elle qui est obligée de dormir sur le côté. Après, c'est elle qui est obligée de... C'est elle qui prend tout. Mais pendant 9 mois, là, c'est elle qui porte. L'homme, lui, commence vraiment à rentrer en action quand l'enfant est arrivé. Bon, il est quand même présent aux côtés de son épouse pendant toute la durée de la grossesse. Mais c'est elle qui porte. C'est elle qui porte le rêve. C'est elle qui porte la vision. C'est elle qui pousse pour que ça sorte. Vous voyez? Et après, l'homme rentre en scène. Et pour ça, il faut persévérer. Il faut persévérer. Aujourd'hui, on va parler de persévérance. C'est pour ça que j'ai mis ça. Et j'ai prié cette semaine et puis je me suis dit, bon, ok Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire à ton peuple? Qu'est-ce qu'on va dire à ton peuple? Et quand tu pries, tu laisses le Seigneur te conduire dans la parole. Et aujourd'hui, on va parler d'un certain nombre de choses. Le thème de ce dont on va parler est intitulé « Le chemin de la persévérance ». Le chemin de la persévérance. Pour ceux qui en ont, on va prendre nos Bibles dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Si tu n'as pas de Bible, regarde celui qui est à côté de toi et demande-lui « Est-ce que tu as une Bible ?» Apocalypse, chapitre 3, au verset 10. Si tu as trouvé, tu dis Amen. Si tu n'as pas trouvé, tu dis Attends. Chapitre 3, verset 10. Ok. Il est écrit ceci. C'est Dieu qui est en train de parler à l'Église. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à son Église. En l'occurrence, à toi et à moi. Et il est écrit ceci, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » C'est une parole très importante, hein? Retiens ce que tu as. Il parle ici à l'Église. Il parle ici à toi et à moi. Et quand il dit « retiens ce que tu as », il le dit parce que effectivement tu as quelque chose. Vous me suivez? Tu as quelque chose. Même lorsque tu penses que tu n'as rien, même lorsque tu penses que tu es inférieur aux autres, tu es moins talentueux que les autres, Dieu dit, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Et il dit, retiens ce que tu as. Pourquoi il insiste sur ça, retiens sur ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. La couronne, c'est ce qui nous est réservé à chacun d'entre nous. Parce que la Bible nous montre souvent cette image-là, que dans les derniers temps, lorsque Christ reviendra, chacun d'entre nous, nous recevrons ce qu'on appelle des récompenses, selon notre fidélité, selon ce que nous aurions accompli sur la terre, etc. Mais chacun d'entre nous, il y a une couronne qui nous est réservée. Mais cette couronne ne sera disponible que si nous avons su, tout au long de notre vie sur la terre, garder ce que Dieu nous avait donné. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné? Aha. Le jour où tu es né de nouveau, le jour où tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, le jour où tu es venu au monde au niveau spirituel et que tu es désormais appelé une nouvelle création, enfant de Dieu, et que tu commences à marcher avec Christ tout au long de ta vie, Dieu dit que tu as quelque chose en toi. Et si la récompense au bout, c'est une couronne, ça veut dire que ce que tu as est quelque chose de très très précieux. Et la pire des choses qui pourraient t'arriver, c'est d'ignorer ce que tu as et de laisser le diable te le prendre. De laisser le diable te le prendre. Parce que le monde viendra auprès de toi avec toutes ses séductions. Et ma prière, c'est que tu ne sois pas comme Ésaü, qui vendit son droit d'aînesse auprès de son frère Jacob parce qu'il ne savait pas concrètement ce qu'il avait. Il n'avait pas mesuré l'importance de son droit d'aînesse au niveau spirituel. Ne sachant pas ce qu'il avait, il le vendit. Il le vendit et ça lui coûta cher. Donc retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Et on ne peut pas parler du royaume de Dieu sans parler de la persévérance. Sur le chemin de la réussite avec Dieu, il y a tout un tas d'épreuves, tout un tas d'obstacles que tu rencontres. Et l'un des traits de caractère super importants que tu dois avoir si tu veux réussir avec le Seigneur dans ta vie, c'est la persévérance. Est-ce qu'on peut dire avec moi la persévérance? La persévérance. La persévérance. Qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, c'est l'acte de poursuite inlassable d'un but. C'est poursuivre un objectif en étant sûr de la fin escomptée au point de tout abandonner et se jeter entièrement dans la poursuite de cet objectif. La persévérance. Il y a quelques semaines, on a vu un enseignement qu'on avait intitulé « Poursuivre le but ». Vous vous rappelez? Poursuivre le but. Et c'est une chose d'avoir un rêve. C'est une chose de découvrir le but de sa vie. C'est une chose d'avoir un objectif pour sa vie. C'en est une autre de poursuivre cet objectif. Et c'en est une autre de persévérer. La persévérance entre en scène lorsque tu commences à t'affaiblir, lorsque tu commences à douter, lorsque tu vois que malgré tous tes efforts, il n'y a pas de résultat. Mais Dieu te dit, persévère. Parce que tout simplement, si tu renonces maintenant, non seulement tu n'obtiendras pas la couronne, mais tous ceux qui sont derrière toi, qui espèrent que tu réussiras, qui souhaitent que tu réussisses, qui désirent que tu réussisses, parce que si tu réussis, tu les fais monter aussi. Si tu montes, ils montent aussi. Donc tu ne dois pas lâcher. Est-ce que vous me suivez? Tu ne dois pas lâcher. La persévérance. Le but que nous poursuivons n'a aucune valeur si nous ne persévérons pas. C'est notre niveau de persévérance qui va déterminer la qualité de l'objectif que nous poursuivons. Si l'objectif que nous poursuivons est si important que ça, par rapport à notre vie, par rapport à ta vie, alors je t'assure, tu trouveras toujours la force de persévérer. La Bible dit, le juste tombe 7 fois et il se relève toujours. S'il se relève toujours, malgré le fait qu'il tombe régulièrement, c'est parce qu'il a une vision. C'est parce qu'il a un objectif qu'il veut atteindre et il connaît la valeur de cet objectif. Et parce qu'il connaît la valeur de cet objectif, alors il trouve toujours la force de se relever. La persévérance, est-ce qu'on peut dire encore la persévérance? Il faut persévérer. Pour ta vie chrétienne, il faut persévérer. Pour ta famille, il faut persévérer. Pour ton entreprise, il faut persévérer. Pour ton ministère, il faut persévérer. Si tu ne persévères pas, personne ne persévérera pour toi. Si tu laisses tomber, personne ne se relèvera pour toi. Il ne s'agit que de toi et de Dieu. Persévérer. Quand tu as un rêve que Dieu a déposé dans ton cœur, ne crois pas que la vie va te le donner comme ça. Ne crois pas que la vie va te le donner comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des projets, mais tu te rends compte que beaucoup renoncent vite. Parce qu'ils ne croient pas suffisamment en leurs rêves et parce qu'ils se rendent compte que pour pouvoir accomplir leurs rêves, pour pouvoir atteindre leur objectif, ils doivent fournir des efforts. Et beaucoup, au bout d'un certain temps, renoncent. Certains renoncent plus vite que d'autres. Mais ceux qui réussissent, ce sont ceux que nous admirons aujourd'hui. Ce sont ceux qui bâtissent. Ce sont les bâtisseurs. Ce sont ceux qui bâtissent de grandes choses. Mais quand tu vois quelqu'un qui a bâti quelque chose de grand, sache que c'est quelqu'un qui a persévéré. Sache que c'est quelqu'un qui n'a pas obtenu ça d'un claquement de doigts. C'est quelqu'un qui a payé un prix. C'est quelqu'un qui a payé un prix. Si Christ n'avait pas persévéré, on ne serait pas là aujourd'hui. Jésus-Christ était Dieu. Jésus-Christ aurait pu renoncer sur le chemin de la croix. La Bible nous montre que entre l'endroit où Jésus-Christ a été revêtu de la croix sur le dos et le parcours, le chemin, ce qu'on appelle communément le chemin de croix pour arriver jusqu'à Golgotha, c'était pas un chemin facile. C'était un chemin fait de pentes, fait de rochers, chemin escarpé, etc. Et par-dessus tout, je ne sais pas si vous avez vu le film La Passion du Christ. Si vous avez tous vu ce film-là, La Passion du Christ de Mel Gibson. Mais quand vous voyez ce film, vous pouvez vous faire une image de ce que Christ a enduré. Pendant qu'il porte une croix hyper lourde sur le dos, il est fouetté en même temps, il est poussé, on lui crache dessus, il est insulté. Et malgré tout, il est là debout, il porte. Parce que dans son esprit, c'est l'objectif qu'il doit atteindre. Vous me suivez? Et l'objectif qu'il doit atteindre n'était pas juste une crucifixion ou autre. L'objectif, son objectif, sa vision, c'était toi et moi. C'est-à-dire qu'il nous voyait dans l'esprit. Parce que la Bible dit que nous étions en Christ. Nous étions en Christ. Et lorsque Christ est mort et il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes venus au monde spirituel avec lui. Et c'est parce que Christ nous portait en nous, en lui, qu'il a trouvé suffisamment de force et de persévérance pour continuer. Mais s'il avait renoncé, on ne serait pas là. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, et c'est l'enseignement que nous avons vu ces 3 dernières semaines, c'est la raison pour laquelle tu dois grandir. C'est la raison pour laquelle tu dois croître, tu dois persévérer, tu dois avancer dans ta vie. Parce que derrière toi, il y a des plus jeunes qui comptent sur toi. Il y a déjà tes enfants. Si en tant que père, tu échoues, c'est chaud pour lui. Donc tu dois réussir, rien que pour lui. Je t'assure que les fois où tu désespères, les fois où tu commences à douter, les fois où tu dis, Seigneur, je ne peux plus continuer. Dieu, tu prends une photo de ton enfant et puis tu mets ça devant toi, je t'assure que tu vas trouver la force de te relever. Parce que si tu renonces, lui plus tard, il t'en voudra. Parce que pour lui, tu devais payer le prix. Comme lui, il devra payer le prix pour ses enfants. Amen. La persévérance. Est-ce qu'on peut dire avec moi la persévérance? La couleur de ton objectif est déterminée par la persévérance et la ténacité que tu mets dans sa poursuite. La couleur. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois devant toi? Qu'est-ce que tu vois pour ta vie? Qu'est-ce que tu vois pour ton ministère? Qu'est-ce que tu vois pour ton foyer? Qu'est-ce que tu vois pour ta carrière professionnelle? Est-ce que tu as décidé de te contenter de ce que tu as ou bien est-ce que tu vois plus? Si tu vois plus, alors il va falloir que tu te lèves et que tu te battes. Il n'y a pas très longtemps, je parlais avec des gens et je leur disais, on parlait un peu de la situation politique du pays. Ils se plaignaient que le pays n'allait pas bien. Ils disaient, c'est foutu. C'est fini. Le pays est à terre. Jamais le pays ne changera. On renonce, on accepte la défaite. Je leur dis, mais si vous acceptez la défaite, vous restez à terre, mais vous allez mourir. Personne ne va vous relever, vous les Gabonais. Il n'y a que vous-même qui pouvez vous relever. Si vous passez votre temps à toujours espérer en ce que celui qui est à la tête de l'État vous relève, vous allez attendre longtemps. Parce que lui, il est là pour faire un travail. Il fera son travail et il partira. Mais si le pays doit changer, c'est d'un commun accord, c'est une volonté commune et nationale qui fera que le pays changera. Oh, mais il y a un système qui est en place. Oh, mais il y a ceci, il y a cela qui ne va pas, etc. J'ai dit, mais si vous continuez à regarder à cela, où est-ce que vous trouverez la foi pour continuer de vous battre? Où est-ce que vous trouverez la foi? Lorsque tu es père de famille et que tu vis dans une bicoque sans électricité, sans eau, si tu abandonnes, mais c'est toute ta famille qui va mourir. Donc même s'il faut que tu ailles balayer la rue, même s'il faut que tu ailles faire le boulot le plus misérable, tu vas le faire. Parce que tu sais que derrière, tu as des gens qui comptent sur toi. Et le soir, quand tu rentres à la maison, tu dois ramener un morceau de pain. Vous me suivez? La persévérance. La persévérance. La Bible nous dit, dans le livre de Habacuc, chapitre 2, verset 1, c'est le prophète qui parle, il dit, « J'étais à mon poste. » Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Certainement. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen.
Une vision ne s'accomplit pas juste parce que tu l'as reçue. Elle ne s'accomplira qu'à la fin. Mais pour ça, tu dois attendre et tu dois persévérer. Il dit, j'étais à mon poste comme un veilleur. Un veilleur qui est à son poste, s'il faut qu'il reste là pendant 6 mois, il va rester là pendant 6 mois. Mais tout ce qu'il sait, c'est que l'information va arriver. Mais s'il quitte son poste et il s'en va, c'est peut-être au moment où il s'est absenté pendant quelques minutes que l'info va arriver, mais là, il va la rater. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour, je veillais. Il persévérait parce qu'il savait que Dieu allait lui parler. Et c'est pareil pour nos vies. Le jour où tu poses un acte qui te détourne du Seigneur, tu n'es plus à ton poste. Tu ne veilles plus. Tu as lâché prise. Et c'est peut-être que là que Dieu voulait te parler. Amen. Et Jésus nous dit, dans le livre d'Apocalypse que nous avons lu au début, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Il dit, « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. » L'une des choses qui amène le plus souvent les enfants de Dieu à péché, à tomber et à ne pas et à lâcher prise par rapport à leur consécration, par rapport à leur sanctification, c'est le manque de persévérance. Le manque de persévérance. C'est parce que tu as arrêté de te battre. Parce que le jour où dans ton esprit, tu acceptes le fait, tu acceptes le renoncement, tu acceptes l'abandon, ce jour-là, comme tout d'un coup, tu n'as plus de force pour continuer à te battre. Parfois faibli d'un coup. Tu n'as plus la force de continuer. Le manque de persévérance. Le diable viendra toujours te tenter. La Bible dit que dans le livre de 1 Pierre, que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde. Et quand il rôde autour des enfants de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il les tente. Le mot tenter vient d'un mot grec qui veut dire tester. Tester. Et ta persévérance sera testée. Ta capacité à tenir ferme dans ta foi et à continuer à te consacrer pour Dieu, elle sera testée. Il y a un pasteur qui souvent aime raconter une petite histoire, qui aime souvent dire ça. Imaginez que un jour, un ange vient du ciel, il parle à toute la terre, il parle à toute l'église, et il dit à l'église, désormais, Dieu a décidé que qui que ce soit, qu'il mente ou qu'il ne mente pas, qu'il se consacre ou qu'il ne se consacre pas, qu'il couche ou qu'il ne couche pas, qu'il vole ou qu'il ne vole pas, désormais, sachez que tout le monde rentrera au paradis. Imaginez que l'ange Gabriel en personne vienne dire ça. Dieu a décidé que tous les hommes, le pire des pécheurs, comme le plus consacré, tout le monde rentre au ciel. La question est-ce que tu vas encore te consacrer? Est-ce que tu vas encore continuer à marcher dans la sanctification comme tu fais? C'est là où Dieu va voir qui sont ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Celui qui n'aime pas, il va dire, oh, mais c'est bon. C'est bon. Donc, on est sûr de rentrer, Gabriel. Oui, oh, mais, oh, petit, on dit quoi? Mais celui qui aime le Seigneur, celui qui est consacré au Seigneur, il va dire, quel que soit ce que tu viens de dire, ange Gabriel, moi, j'appartiens au Seigneur. J'appartiens à mon Dieu. Et je ne me souillerai pas. Amen. Le manque de persévérance amène beaucoup d'enfants de Dieu à ne pas marcher dans la victoire. Le manque de persévérance. Les champions sont ceux qui persévèrent. Les champions sont ceux qui, malgré les coups, trouvent toujours la force de se relever avant le 10e coup. Les champions sont ceux qui ont un caractère de fer, quelles que soient les difficultés. Nous, aujourd'hui, quand on voit ça, Si tu n'as pas cette mentalité de persévérance, là, regarde, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Mais parce que tu vois quelque chose. Parce que tu vois quelque chose. Parce que Dieu a déposé quelque chose. Parce que Dieu respire au-dedans de toi. Dieu soupire au-dedans de toi. Dieu te parle. Et Dieu te dit, continue. Continue. Lorsque Paul est arrivé pour la première fois à Corinthe, la Bible nous raconte que dans le livre des Actes, Paul avait prêché l'évangile, mais pendant pas très longtemps, et il s'apprêtait à partir, et là Dieu vient le voir en songe, et Dieu lui dit, continue de prêcher ici, parce que mon peuple ici est nombreux. Paul s'est basé juste sur cette parole pour bâtir une église. Il y est resté pendant 3 ans, et pendant 3 ans, il a monté l'église. Pendant 3 ans, il faisait ce que je fais là. Pendant 3 ans, il était à Corinthe en train de prêcher. Et Corinthe n'était pas une ville facile. Hein. C'était une ville qui avait que des païens, qui croyaient à des idoles, il y avait toutes sortes de pratiques. Mais face à ça, Paul prêchait. Et j'imagine. Et il était persécuté en plus. Mais il prêchait. Je vous assure, quand vous voulez voir quelqu'un qui... Si vous voulez voir des gens qui ont persévéré, prenez la parole et voyez comment les apôtres se sont battus. Ils étaient déterminés. Paul était différent de Pierre, Jacques et Jean qui avaient marché avec le Seigneur pendant plus de 3 ans. Paul n'avait jamais vu Jésus physiquement. Il était né de nouveau comme toi et moi. Le chrétien, la nouvelle création par excellence, comme vous et moi, c'est Paul. Il avait reçu une conviction, il avait reçu des révélations par rapport à Jésus-Christ et il prêchait. Mais quand on lit la parole, on voit les persécutions que Paul endurait. Mais si Paul a renoncé, on serait pas là aujourd'hui. Et il allait dans des coins comme l'Asie, mineure, tout ça. Et là, il nous montre que lorsqu'il est arrivé à Éphèse, il fut persécuté, il fut mis en prison avec Silas. Il a enduré toutes sortes de persécutions. Mais il a persévéré. Et il n'y avait pas plus tenace que Paul. Amen. Pas plus tenace. Donc, tu vas devoir faire preuve de beaucoup de courage et de beaucoup de persévérance pour pouvoir réaliser tes projets, les projets que Dieu t'a mis à cœur. Si tu renonces, malheureusement pour toi, personne ne se battra pour toi. Ça, il faut en être conscient. Que si tu renonces, c'est toute ta vie qui reflétera le renoncement. Si tu abandonnes, ce sont ceux qui viennent derrière toi qui te pointeront du doigt et qui te diront pourquoi tu as abandonné. Parce que nous, on compte sur toi. On s'attend à toi. Aujourd'hui, par exemple, tu cherches du travail. Tu es sans emploi. Mais peut-être que ton employeur, c'est celui qui est assis à côté de toi. Peut-être que ton futur employeur, c'est celui qui est assis à côté de toi. C'est peut-être parce qu'il va bâtir une entreprise que demain, il va t'embaucher. Tu ne sais pas. Il y a aujourd'hui beaucoup de chômage à Libreville. Mais s'il y a beaucoup de chômage à Libreville, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Gabonais qui n'ont pas encore pris la décision de se lever et de bâtir leur propre entreprise pour embaucher demain. Le principal problème aujourd'hui avec le chômage, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de PME. Il n'y a pas suffisamment d'entreprises privées qui embauchent. Le maillon le plus important de l'économie d'un pays, ce sont les PME. Ce sont les petites et les moyennes entreprises. Ce sont eux qui embauchent le plus, pas les administrations. Et s'il y a autant de chômage à Libreville, parce que moi je ne crois pas qu'il y ait seulement 20% de chômage, je crois qu'il y en a beaucoup plus. S'il y a autant de chômage à Libreville, c'est parce que les Gabonais n'entreprennent pas suffisamment. Et quand tu veux organiser un séminaire comme Oser Entreprendre, tu as des gens qui te disent c'est pas une bonne initiative. Tu dis mais vraiment, mais toi tu dois être au chômage, toi. Vraiment, non, mais c'est impressionnant. Le succès n'est pas un don, c'est une aventure entreprise par ceux qui le désirent. La réussite dans la vie n'est pas automatique, elle se désire et elle se poursuit avec persévérance. La nouvelle création que nous sommes, Dieu dépose en nous la persévérance. C'est un trait de caractère que nous avons et que nous devons cultiver. C'est justement parce qu'un jour nous avons eu la foi en Christ que la vie devient un véritable défi afin d'être un témoignage à la gloire de Dieu. Il n'y a rien de précieux, il n'y a rien de beau qui ne commence au maximum de son potentiel. Rien. Tout commence comme une semence et à travers une poursuite persistante. C'est un principe naturel. Lorsque Dieu commence quelque chose, il le commence toujours petit. Il le commence toujours bébé. Lorsqu'un enfant vient au monde, il vient d'abord en tant que nourrisson. Il a des parents qui vont prendre soin de lui, qui vont lui donner le lait, qui vont le nourrir, et l'enfant va grandir, on va le prendre par la main. Ensuite, il a une autre période de sa vie où il va devoir apprendre par lui-même. Il va devoir apprendre à marcher seul. C'est fini le temps où on lui donnait le lait. Lui-même, il va devoir aller acheter son lait. Il y a une autre saison où lui-même, il va devoir bâtir sa maison. Il va devoir maintenant faire preuve de responsabilité, prendre soin de sa propre famille, bâtir une carrière professionnelle, bâtir un ministère avec le Seigneur, etc., etc. Mais ça demande de la persévérance. Ça demande beaucoup d'autres clés aussi, dont on pourrait parler ici pendant des jours. Mais l'une des clés importantes de la réussite, c'est la loi de la persévérance. Le chemin de la persévérance, ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Parce qu'au bout, il y a une couronne. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. Et quand Jésus-Christ nous dit, retire ce que tu as, fermement, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Pourquoi est-ce qu'il nous dit de retenir ce que tu as et pourquoi est-ce qu'il nous dit de persévérer afin que personne ne prenne ta couronne? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit de retenir comme ça? Qu'est-ce que Jésus nous dit de protéger comme un précieux trésor dans cette parole-là? Qu'est-ce que le diable voudra venir te voler? Quand tu t'assois et que tu médites sur ce passage, tu te rends compte que ce précieux trésor que Dieu a déposé au-dedans de nous et que le Seigneur nous demande de protéger, c'est ce qu'il appelle la foi. F-O-I. C'est ce que le Seigneur nous dit de garder et de retenir. Le Seigneur lui-même a dit, je ne me rappelle plus de la référence, il a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Trouverai-je encore la foi? Ce qui est le plus important, si tu perds ta foi, tu peux tout accepter. Tu peux perdre de l'argent. Tu peux perdre des biens matériels. Dieu peut même permettre que tu perdes un être cher. Mais ta foi, il ne faut pas la perdre. Parce que c'est ta foi qui te garantit ton salut. Si tu perds ta foi, c'est fini. Tu as tout perdu. Dieu est un Dieu de foi et il opère par la foi. Si tu n'as plus de foi, Dieu ne peut plus travailler dans ta vie. Il y a des chrétiens qui ont vécu des expériences douloureuses et qui ont renoncé à la foi par la suite. Ils ont dit, si Dieu était Dieu, il n'aurait pas permis que ça m'arrive. Je renonce. Et il retourne dans le monde et sa vie est pire que celle qu'elle était avant. Il a perdu la foi. Il a perdu la foi. Et la foi, c'est ce précieux trésor-là. C'est ta foi qui te garantira la couronne. C'est ta foi qui te garantira la récompense. C'est ta foi qui te permettra de trouver toujours la force de persévérer. C'est pour cela que tu dois développer ta foi. C'est pour cela que tu dois travailler ta foi. Tu dois l'augmenter. Et les disciples qui traversaient des moments de doute ont dit un jour à Jésus, Seigneur, augmente notre foi parce qu'elle est petite. Lorsque Pierre vient dire à Jésus, Seigneur, je serai prêt à mourir pour toi. Et Jésus-Christ lui dit, oh Pierre, avant même que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Il dit, Seigneur, jamais. Mais Jésus-Christ lui dit, Pierre, après la résurrection, il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Le temps viendra où tu retrouveras la foi et tu encourageras tes frères. Parce qu'il y a un temps où tu la perdras. Mais Dieu avait déjà prévu ça, parce que tu es un général dans son équipe. Donc il ne peut pas accepter que tu perdes ta foi. Donc Dieu va te protéger. Jésus-Christ leur dit que Satan est venu et il vous a réclamé. Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour vous. Jésus-Christ ne dit pas, vous rappelez de ce passage dans le livre de Jean. Jésus-Christ ne dit pas, Satan vous a réclamé et je lui ai dit, je ne les livrerai pas. Non. Il dit, j'ai prié. C'est-à-dire qu'il est venu vous réclamer et il est possible qu'il vous ait. Il est possible qu'il vous attrape. Satan est venu vous réclamer et il rajoute, afin de vous cribler comme du froment. C'est-à-dire qu'il veut vraiment vous faire du mal. Parce que pendant 3 ans, là, vous avez joué les gandos avec moi. Mais maintenant, je m'en vais. Donc, ce qui va vous garder après mon départ, c'est votre foi en moi. Et lui, le diable, il est venu vous réclamer. Donc, si vous perdez votre foi, et j'ai prié pour votre foi, j'ai prié pour que vous gardiez la foi. Il fut un temps où tu étais chaud. Il fut un temps où tu étais audacieux, motivé pour le Seigneur. Mais il y aura un autre temps où la vie te demandera des comptes, où le diable viendra et te réclamera. Mais c'est ta foi qui te gardera. Il y a des choses, je vous assure, dans la vie, il y a des situations et des circonstances dans la vie que l'on traverse, je vous assure. Par exemple, quand on perd un être cher, les gens peuvent venir te taper sur l'épaule, les gens peuvent venir rester avec toi, etc. Mais Ils ne peuvent pas comprendre la douleur que tu éprouves. Ils ne peuvent pas comprendre cette douleur parce qu'il n'y a que toi qui la vis. Ils ne peuvent que te dire, ça va aller. Ça va aller. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent que prier pour toi. Mais la meilleure des prières qu'ils pourraient faire à ton sujet, c'est dire, Seigneur, ne permette pas qu'il perde la foi. Parce que s'il perd la foi, Satan l'a réclamé. Et s'il retourne là-bas, pour revenir. C'est pour cela que les chrétiens les plus difficiles à ramener dans le royaume, ce sont ceux qui étaient déjà dans le royaume. Ce sont ceux qui avaient déjà eu une vie d'église et qui ont été blessés, déçus, frustrés. Et quand ils retournent dans le monde pour les ramener à l'église, gars, c'est compliqué. La Bible identifie ce type de chrétiens comme des chiens qui ont vomi et qui sont retournés manger leur propre vomi. C'est-à-dire ceux-là, là, ils ont entendu l'évangile. Ils ont été enseignés. Leur foi a été enseignée, galvanisée, boostée. Ils ont grandi un certain temps, mais leur foi, ils étaient faibles. Et au bout d'un certain temps, ils ont vécu une situation qui a touché leur foi. Et là, ils abandonnent. Ils disent, je ne crois plus en Dieu. Ou bien, je crois en Dieu, mais je ne veux plus aller à l'église. Voilà, je peux lire ma Bible seul à la maison. Je prie seul à la maison. Mais tu es en danger. Tu es en danger. Parce que ici, à l'église, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui fait du bien à ta foi. Mais si tu renonces à cette vie de consécration en Christ, c'est chaud pour toi. Est-ce qu'on peut dire avec moi la persévérance? La nouvelle création est cette personne qui a rencontré la merveilleuse personne de Jésus-Christ et qui possède le précieux trésor de la foi pour vivre et expérimenter les bienfaits du royaume de Dieu par le Saint-Esprit en elle. La foi. Sans la foi, tu ne peux pas entrer et posséder ton héritage en Christ. Il n'y a que par la foi. La foi, je vais vous dire un peu ce que c'est que la foi. Rappelez-vous toujours un principe très important. Tout est spirituel. Lorsque tu vois des choses arriver dans ta vie, demande-toi toujours au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu veux avoir des percées, lorsque tu veux avoir des portes qui doivent s'ouvrir dans ta vie, que ce soit des portes au niveau du ministère, que ce soit des portes au niveau professionnel, que ce soit des portes au niveau financier, que ce soit des portes au niveau de ta famille, tu veux avoir un enfant, etc. Lorsque tu veux qu'une porte s'ouvre, c'est par la foi que tu peux entrer dans le spirituel et prendre possession de ce qui t'appartient. C'est pour cela que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas par autre chose. Parce que Dieu opère par la foi. S'il n'y a pas de foi, Dieu ne peut rien faire. C'est pour cela que Jésus-Christ disait souvent aux gens qu'il guérissait, « Ta foi t'a sauvé. » Parce que Jésus-Christ attendait d'abord de voir la foi. Et souvent, Jésus-Christ demandait, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Il dit, « Seigneur, guéris-moi. » Et Jésus-Christ voyait la foi et guérissait. Et il y eut un moment où Jésus-Christ retourna dans sa ville natale et la Bible dit qu'il ne put faire pas beaucoup de miracles auprès de sa famille, au sein de sa famille, parce qu'il ne croyait pas en lui. Et Jésus-Christ même, la Bible rajoute qu'il était étonné de leur incrédulité. Incrédulité veut dire quoi? Le manque de foi. Le manque de foi. La foi est le bras surnaturel qui te permet de saisir les promesses de Dieu à ton sujet. Sans elle, ta vie chrétienne est vide. S'il n'y a pas de foi, tu ne peux rien faire. Ta prière ne dépasse même pas le plafond. Qu'est-ce qui fait qu'on vient ici et qu'on fasse tout ça? C'est la foi. La foi en Dieu, de croire que ça grandira. Qu'est-ce qui fait que le matin tu te lèves et que tu te mettes à prier alors que tu pourrais faire autre chose, mais tu restes là pendant une heure et tu pries seul dans ton salon? C'est la foi. Tu as la foi que Dieu t'écoute. Tu as la foi que le Saint-Esprit est présent auprès de toi. Qu'est-ce qui fait que malgré les difficultés par lesquelles tu passes aujourd'hui, tu sais que aujourd'hui c'est peut-être le temps de la sécheresse, mais bientôt viendra la saison de l'abondance. Mais pourtant tout autour de toi te dit que tu resteras dans la sécheresse. C'est la foi. La Bible nous raconte l'histoire de Isaac qui, au temps de la famine, tout le monde partit. Il entendit un jour une voix, la voix du Saint-Esprit qui lui dit, reste et sème ici. Il était seul, Mais quand il se mât, les gens le regardèrent et les gens lui dirent, mais tu es fou, papa. Tu vois pas que c'est la sécheresse, le sol est sec. Mais il prend, il creuse et il met la semence. Les gens disent, mais naturellement, ça ne poussera pas. Mais lui dit, moi j'ai la foi que ça poussera. Mais qu'est-ce qui te permet de dire ça? Parce que j'ai entendu une parole. J'ai entendu une parole. Et c'est là que la vie en Christ commence à vraiment avoir du goût. C'est là que la vie en Christ commence vraiment à avoir du goût. Quand tu commences à marcher dans le surnaturel comme ça. Quand tu commences à avoir la foi. C'est là que la vie commence à avoir du goût. Parce que les enfants de Dieu, malheureusement, se fient trop aux apparences. Ils se fient trop aux apparences. On regarde trop autour de nous. On regarde trop ce qui se passe autour de nous. Et on est affecté par ça. Parfois, ferme les yeux. Parfois, ferme les yeux. T'as pas d'argent. Et alors? Dieu sait que tu auras de l'argent demain, mais Dieu veut déjà voir ton niveau de foi. Tu n'as pas d'argent. Et alors? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est la quantité de ton compte bancaire qui te motive? Ou bien c'est la parole que Dieu a dit à ton sujet? On regarde trop aux apparences. Et là, il a d'ailleurs dit dans le livre de 1 Samuel, l'homme regarde aux apparences. Et moi, je regarde au cœur. Je regarde au cœur. Romains chapitre 1, verset 16 nous dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Persévérer par la foi. Et c'est pour cela que Jésus-Christ nous dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. Le mot retenir ici, je suis allé chercher un peu le mot retenir ici, ce que ça voulait dire quand il dit retiens. Je suis allé regarder dans le grec ce que ça voulait dire. Le mot retiens ici est un mot grec que l'on prononce kratos. K-R-A-T-O-S. Kratos. Et ce mot kratos en grec, vous savez à quoi ça fait référence? Ça fait référence à un pouvoir, à une autorité qu'on détient. C'est un mot que l'on utilise d'un point de vue politique. C'est un pouvoir en fait qu'on a. Le pouvoir du chef de l'État, c'est pas un objet. Le pouvoir du chef de l'État, c'est un manteau qu'il a revêtu, n'est-ce pas? C'est un manteau, c'est une fonction qu'il a. Il est dans une position qui lui donne aujourd'hui une autorité. Pourtant, c'est un être humain comme toi et moi. Mais il a un pouvoir. Une parole, tu es mort. C'est un pouvoir. Enfin, de nos jours, plutôt en prison, je dirais. Mais bon, dans notre pays-là, parfois, on se croirait dans un royaume, vraiment. Parfois, je suis là, je me dis, punaise, c'est bon l'autorité, hein. C'est bon le pouvoir, hein, parfois. Tu arrives au niveau du rond-point de l'aéroport, et puis tout d'un coup, tu vois les policiers qui vous arrêtent. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le chef de l'État passe. Et puis, on attend 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Et puis on dit, vous aussi, 45 minutes. Il doit passer. Mais depuis, on serait déjà passé. Il a dit qu'on arrête les voitures. Point barre. Vous ne passez pas. C'est qui? C'est le chef de l'État. Je dis pas. On est dans une démocratie ou dans un royaume ici. Tu vois? C'est le chef de l'État. Il est privilégié. Il a un pouvoir. Il a le pouvoir d'arrêter la circulation. Et quand tu vois le bouchon que ça crée jusqu'à je ne sais pas où, il dit, mais comment on peut bouleverser tout un trafic juste pour une personne? Et je t'assure que si on te montre ce qu'il est en train de faire au moment où il est en train d'attendre, il est peut-être en train de prendre son petit déj. Il parle avec quelqu'un. Il est là. J'ai oublié quelque chose. Oh, et puis il est là. Et puis quand vous le voyez, il joue les durs. Hein, il prend son temps. Vous êtes sous le soleil. C'est un pouvoir qu'il a. C'est un pouvoir. Mais le jour où il perd son pouvoir, c'est pour ça que beaucoup de chefs d'État africains ne veulent pas laisser ça. Parce qu'ils savent que s'ils retournent, on va leur faire ça dur. Ah oui, Ah oui, c'est pour ça qu'ils veulent les privilèges, les honneurs. Les honneurs, ils ne veulent pas laisser ça. Le mot kratos fait référence à ça. Tu as des privilèges. Tu as une autorité. Le jour où tu deviens enfant de Dieu, nouvelle création, tu as maintenant cette autorité de pouvoir regarder quelqu'un et dire « Esprit impur, sors !» Mais si tu perds la foi, tu ne peux plus faire ça. Tu as une capacité maintenant de dire, quand on te dit tu es malade, tu dis je ne suis pas malade. Christ ne peut pas être malade. J'ai en moi l'esprit de vie, l'esprit de Christ. Cette maladie, elle séchera. Elle mourra. Elle mourra. Il n'y a pas longtemps, au début de cette semaine, il y a quelqu'un au travers du site internet Réaction avec Dieu qui nous a écrit et qui nous a dit qu'il était très malade. Enfin, elle, c'était une dame. Elle était très malade. Elle était atteinte d'une maladie incurable. Elle dit prier. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, là, ce qui est testé, ce qui est mis à l'épreuve, c'est ta foi. Tu dois maintenant augmenter ta foi. Tu ne dois pas juste dire, je crois en Dieu, ou bien je crois que Dieu va me guérir. Mais tu dois maintenant augmenter ton niveau de foi et croire que celui qui habite en toi s'appelle le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. Il est l'esprit de vie et il est celui qui, dans les évangiles, guérissait les gens de toute maladie et est capable aussi de te guérir aujourd'hui. Tu dois croire que Christ, sur la croix, a porté tes maladies et tes meurtrissures et que tu es guéri. Ce n'est pas juste, oui, viens, je vais prier pour toi, etc. Non. Ça, c'est maintenant toi, maintenant, ta foi. Tu dois te lever le matin et quand les gens de ta famille viennent avec un regard dépité, « Oh, vraiment, ça va. » Ça va, tu dis non, ça va très bien. Je ne suis pas malade, mais tu es malade, je ne suis pas malade. Par sagesse, tu continues quand même à prendre les médicaments. Mais chaque semaine, tu vas chez le médecin. Le médecin dit, oui madame, vous venez faire quoi encore aujourd'hui? Monsieur le médecin, je suis venu faire des examens pour voir si je suis toujours malade. Il va regarder son collègue, mais la femme, elle est folle. On vient de lui dire qu'elle est malade de telle maladie. Non, mais monsieur le médecin, faites encore les examens. On fait les examens. Madame, vous êtes toujours malade et la maladie ne fait que grandir. Ok. Madame, vous êtes malade? Non. Et tu oses lui répondre, est-ce que vous savez que Christ ne peut pas être malade? Je suis un membre du corps de Christ. Je ne peux pas être malade. 1 Corinthiens 6, verset 15. Où c'est? Je ne sais plus. Tu es un membre de Christ. Si je suis un membre de Christ, ça veut dire que la vie qui est dans le tronc coule aussi dans les branches. Donc la vie de Christ coule en moi, donc je refuse d'être malade. Est-ce que vous me suivez? Et ça va devoir activer ta foi. C'est sur ça que tu dois te baser, c'est sur la parole. La parole. Est-ce que, une fois, il y a une dame, je m'appelle, il y a quelques années à Paris, quelqu'un que je connais m'avait dit, « Oh, on n'arrive pas à avoir d'enfant, on est parti chez le médecin, il nous a fait des examens et il a dit que je suis stérile. » Et moi, je la regarde et je lui dis, « Mais il a dit que tu es stérile. Mais qu'est-ce que Dieu dit ?»« Ah, lui, tout ça. » J'ai dit, « Qu'est-ce que Dieu dit ?» Qu'est-ce que tu crois? Tu crois le médecin ou tu crois le médecin au-dessus de tous les médecins, Dieu lui-même? Qui tu crois? Le médecin a dit que tu es stérile, tu ne peux pas avoir d'enfant. Elle a persévéré. Ils ont continué à croire. Ils ont continué à travailler. Et un an après, ils ont eu un enfant. Et aujourd'hui, ils en ont deux. Et je me rappelle une fois, je l'avais croisé à l'église. Et elle avait son enfant entre les bras. Et puis je lui ai dit, tu te rappelles notre discussion qu'on avait eue dans la voiture, non? Et je t'avais dit, qui tu crois? Elle dit, si, je me rappelle. Le médecin avait dit que tu étais stérile. Mais regarde aujourd'hui, la gloire de Dieu s'est manifestée dans ta vie. Donc, ta foi. Garder ta foi est le combat légitime. Et le combat légitime que tu devras mener. C'est pour cela que le combat le plus important dans la Bible, c'est le combat de la foi. C'est pour cela que Paul, qui est en train de parler à son disciple, à son fils, à Timothée, Paul dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 4, au verset 7, Paul parle à quelqu'un, à un jeune qui est démoralisé. Il a eu des échos du ministère de Timothée, de l'Église. Et il a entendu que la foi de Timothée était en train de vaciller. Il a entendu que la foi de Timothée avait pris un coup. Et là, il dit quelque chose à Timothée. Il dit à Timothée, « Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Désormais, regardez ce qu'il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tout autre combat que tu peux mener dans la vie n'est pas le combat de la foi. Le combat le plus important que tu dois mener, c'est celui de la foi. Il dit, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne. Il dit désormais, parce qu'il sait qu'il est au bout de la course. Il le regarde à ses années de ministère et il voit tout ce qu'il a pu accomplir avec le Seigneur. Et là, il dit, quand il regarde, il fait le bilan, il dit, non, j'ai vraiment gardé la foi. Avec tout ce que j'ai pu traverser, punaise. Toutes les persécutions, les prisons, les insultes, les crachats. Ah, mon Dieu, j'ai quand même persévéré. Non. Ah oui. Et là, quand on te demande, est-ce que tu penses que tu auras la couronne? Tu dis, quoi? Tu veux tout ce que j'ai fait avec mon Seigneur? Non, moi, là, il affirme sans prétention, il dit, désormais, la couronne m'est réservée. Désormais, la couronne de justice est réservée. Le juste juge. Et il dit, et c'est pas qu'il dit, par la grâce de Dieu, je crois que Dieu me la donnera. Non, il dit, le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux. Là, il parle de qui? Il parle de toi et moi. À tous ceux qui auront aimé son avènement. À tous ceux qui croient qu'un jour Jésus-Christ revient bientôt. Et même si un jour l'ange Gabriel vient ici en disant, désormais tout le monde va au paradis, toi tu dis, moi je me consacre, je garde la foi et je continue. Ce n'est pas un combat facile. Car ta foi sera mise à l'épreuve très souvent. Mais c'est la persévérance et ta détermination qui te permettront de tenir ferme. Qui te permettront de tenir ferme. Et beaucoup, sur le chemin de la réussite, sur le chemin de la persévérance, se sont disqualifiés. Beaucoup ont renoncé. Beaucoup ont abandonné la foi sur la route de leur destinée. Et surtout, quand tu as découvert ta destinée en Christ, n'abandonne pas. N'abandonne pas parce que tu sais que la récompense est grande. Et il rajoute, pour continuer dans ce que Paul est en train de dire à Timothée, à son fils, il rajoute, verset 9, « Efforce-toi de venir me rejoindre aussitôt que possible, Timothée, car Démas m'a abandonné, le monde présent a gagné son cœur. » Il est parti pour Thessalonique. Démas m'a abandonné, le monde présent. Le monde et toutes ses richesses, le monde et toutes ses convoitises, le monde et son orgueil, le monde et tous ses plaisirs, le monde et tous ses soi-disant succès. Il rajoute à gagner son cœur. À gagner son cœur. Salomon dit dans le Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, n'est-ce pas? Garde ton cœur. Parce que si ton cœur s'incline vers ces choses-là, c'est fini. Ce que Dieu veut toujours conquérir dans ta vie, c'est toujours ton cœur. Toujours. Parce que Dieu, quand il entre dans la vie de quelqu'un, c'est dans le cœur de l'homme qui vient habiter. C'est dans ton cœur qu'il vient habiter. Et c'est pour cela que ton cœur, tu dois faire très, très, très attention à qui tu laisses entrer dans ton cœur. Si n'importe qui entre dans ton cœur, tu es foutu. Ton cœur, c'est ton jardin secret. Ton cœur, c'est ton Éden. C'est de ton cœur que tout le corps est irrigué. Lorsque le cœur arrête d'irriguer, le corps entier est malade. Donc, c'est le cœur, c'est du cœur que tout part. C'est du cœur que la vie part. Et quand la Bible parle de ton cœur au niveau spirituel, elle parle de l'esprit. L'esprit que tu es. C'est là que Dieu vient habiter. C'est ce que la Bible appelle souvent le cœur. Tu vois? Et quand la Bible dit garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie, parce que tout simplement c'est de l'esprit que vient la vie. Parce que l'esprit est celui qui est né de nouveau, c'est-à-dire toi. L'esprit, c'est la nouvelle création. L'esprit, c'est celui qui est fait à l'image de Dieu. Amen. L'esprit, c'est-à-dire quand tu te regardes dans la glace, ce n'est pas l'esprit que tu vois. Tu vois le corps, tu vois la chair. Et l'homme est un être tripartite. C'est-à-dire, il est fait, il est esprit, il habite dans un corps et il a une âme. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, le corps n'a pas été recréé, n'a pas été régénéré, comme nous dit la Bible. Le corps n'est pas revenu à la vie. C'est pour cela qu'il n'y a pas de changement physique quand tu nais de nouveau. Ton âme non plus ne revient pas à la vie. Ton âme, elle, a besoin de ce qu'on appelle la restauration. Elle a besoin d'être rééduquée. Parce que dans ta chair, avant de connaître le Seigneur, tu as marché avec ton âme tout au long de ta vie. Et l'âme, c'est le siège des émotions et des sentiments. Quand tu es triste, c'est l'âme. Quand tu as peur, c'est l'âme. C'est-à-dire, toi, l'esprit, fait à l'image de Christ, tu ne peux pas avoir peur. L'esprit ne peut pas avoir peur parce que la peur n'est pas en Christ. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 17 que celui qui est en communion avec Christ, avec Dieu, est avec lui un seul esprit. Et c'est ça le miracle de la nouvelle création. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vient dans ton cœur et il y a une fusion qui se passe entre l'humanité et la divinité, entre toi et le Saint-Esprit. Vous devenez une seule et même personne. Donc, toutes les émotions, les sentiments que tu peux ressentir viennent de ton âme. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand il dit les plaisirs de ce monde ont gagné son cœur, c'est-à-dire tout simplement l'esprit qu'il est a été séduit, tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Il est parti pour Thessalonique, en gros il est parti pour le monde de dehors, il m'a abandonné. Mais par la grâce de Dieu, tu n'abandonneras pas, est-ce qu'on peut dire amen? Tu garderas la foi, tu ne laisseras pas tomber. On va atterrir. Comment faire pour conserver la foi? Comment faire pour conserver le dépôt? Car Paul continue et dit à Timothée, dans le premier livre de Timothée, chapitre 6, au verset 20, il lui dit une parole, et j'aime beaucoup la version de la parole vivante. Écoutez très bien cette parole parce qu'elle est très importante. Elle s'adresse à chacun d'entre nous. Il dit, « Oh Timothée, tu sens le papa qui parle à son fils, celui qui a compris beaucoup de choses et qui parle au jeune qui n'a pas encore compris. » Et certainement le jeune se justifiait. « Oui, mais il y a des gens autour de moi qui m'ont dit ça. Oui, mais tu ne vois pas comment je vis? Tu ne vois pas les circonstances? Tu ne vois pas ma situation? Non, je sais qu'il faut garder la foi, mais ma situation là, Dieu ne peut pas permettre ça. » Et il aurait dit, « Oh Timothée, garde intact le dépôt de foi qui t'a été confié. Ferme tes oreilles aux discours creux et impies, aux arguments contradictoires de ce qui s'appelle science ou encore connaissance, mais n'en mérite pas le nom. Ne t'occupe pas des objections et des subtilités des gens qui se targuent à tort de leur savoir ou de leur illumination, car elles sont contraires à la foi. Garde intact le dépôt. Quel dépôt? Ta foi. C'est ça que tu dois garder précieusement. Kratos, retiens-le. C'est ça ton pouvoir. Et si tu perds ça, non seulement tout ton ministère est à terre, mais toute ta vie en Christ est à terre. Comment garder intact le dépôt? Premièrement, il lui dit, ferme tes oreilles aux discours creux et impies, aux arguments contradictoires de ceux qui s'appellent science et connaissance, mais n'en méritent pas le nom. Ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles, ça veut dire n'écoute pas. N'écoute pas ce que les gens disent dehors. N'écoute pas ce que les gens disent dehors de l'église. N'écoute pas ce que les journaux disent. Tu te lèves le matin, tu prends l'union. Voilà, on a encore trouvé un pasteur qui a violé une fille. Toujours les mêmes, les églises éveillées là, etc. Toi, tu dis, oh, moi, je ne peux pas aussi dans ces églises-là. Non, n'écoute pas les discours creux et impies. N'écoute pas les discours. Ferme tes oreilles aux sciences qui contredisent la vérité contenue dans la Bible. L'évolution selon Darwin. Est-ce que tu sais qu'on est j'arrive même pas à prononcer ça. Des australopithèques. Nous sommes issus du singe. Tu es issu du singe, toi. Quand tu regardes le singe, est-ce que tu te vois? Hein? Parce qu'il y a des gens dehors qui te disent ça. Une fois, j'étais en rendez-vous professionnel en plus, dans une entreprise. Et je parlais avec un directeur commercial le directeur commercial de la boîte. Et je ne sais pas comment notre discussion a dévié sur le spirituel. Je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit peut-être qui a amené ça. Il commence à me parler de ses croyances. Il croit au Bouti, il est bouddhiste, consacré au Bouti, il pratique ça, etc., etc. Et il me regarde dans les yeux. Mais il te fixe, hein. Et il met ta foi à l'épreuve. Tu sens que c'est Satan qui te parle, tu vois, non? Et puis le gars, il te fait, tu crois vraiment en toutes ces bêtises-là concernant Jésus-Christ? Tu crois vraiment en ça? Et puis il me rajoute, mais regarde-toi, tu es un intellectuel, voyons. Tu es quelqu'un d'intelligent, tu as fait des études. Et puis depuis que je parle avec toi, je vois que tu es vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Tu crois vraiment en toutes ces choses-là? Adam et Ève, la Bible, David,
soi-disant jeune homme de 17 ans qui a tué un gars qui s'appelle Goliath. Tu crois en toutes ces choses-là, toi? Tu crois en cette histoire de Jésus qui est venu et qui a fait, qui guérissait les gens? En tout cas, aujourd'hui, il serait le bienvenu aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, hein, Jésus. Tu crois vraiment en ça? Tu crois en Paul et tu crois en tout ça? Et je le regardais. Je l'ai laissé parler, en fait. Tu crois? Hein, est-ce que tu crois? Et je le regarde et je lui dis, oui, je crois. Oui, je crois, papa. Je crois, et toi aussi, tu devrais croire, si tu veux être sauvé. Oh, il me dit, oh, laisse-moi ça. Sauvé, sauvé de quoi? Je dis, sauvé de quoi? Je le regarde et je lui dis, il faut que tu crois. Il me dit, je ne crois pas. Je lui dis, chacun croit en ce qu'il veut, papa. Mais moi, j'ai fait mon choix. J'ai fait le choix de croire en Jésus-Christ. J'ai fait le choix de croire qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur, qu'il est Dieu, venu un jour sur terre, a revêtu un corps humain, appelé Yeshua, Jésus-Christ le Sauveur, et qu'il allait mourir à la croix. Et qui, à la croix, lorsqu'il est mort, je suis mort avec lui. Et quand il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Et qu'aujourd'hui, la mort et le péché n'ont plus de pouvoir sur moi. Aujourd'hui, je sais que j'ai la vie éternelle. Et que quand je quitterai cette terre, j'irai dans un endroit merveilleux, appelé le ciel. Et ensuite, je reviendrai avec lui. La Bible dit, Apocalypse 5, verset 4, je reviendrai avec lui et nous régnerons avec lui pour l'éternité. Voilà ce en quoi je crois. Il me dit, ah vraiment, je crois que tu es fou. J'ai dit, non, je ne suis pas fou. Je suis illuminé de la révélation et de la splendeur de Christ, c'est tout. Ferme tes oreilles et n'écoute pas l'intellectualisme, les raisonnements humains. Deuxièmement, il dit, ne t'occupe pas des objections et des subtilités. Les objections, tu vas en avoir. Des gens qui vont te contredire, comme celui dont je viens de raconter. Les subtilités. Et c'était le principal problème de Timothée. Et c'est pour cela que Paul insiste sur ce point. Paul insiste sur ce point. Ta capacité à persévérer et à garder le dépôt démontrera la mesure de ta foi et ton amour pour Christ. Quand tout va bien, c'est facile de dire, Seigneur, je t'aime. Quand tout va bien, c'est facile de dire, je crois en Dieu. Mais quand tout va mal, quand c'est difficile, c'est là que quand tu dis, Seigneur, je t'aime, c'est là que ça prend de la valeur. Pas quand tout va bien. Pas quand tout va bien. La Bible dit que lorsque l'effondrement sont ébranlés, vers qui se tournera le juste? Que fera le juste? Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce que tu fais quand tout s'écroule à tes pieds, sous tes pieds? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues de croire? Est-ce que tu continues de prier de la même manière? Ou bien est-ce que tu arrêtes de prier? Est-ce que tu arrêtes d'aller à l'église parce que tout va mal? Et puis quand tout va bien, tu reviens à l'église et le sourire comme une banane? Non. Ta foi sera éprouvée. Ta foi sera éprouvée. Gardez le dépôt. Gardez le dépôt. Est-ce qu'on peut dire ensemble garder le dépôt? Et la meilleure manière, le meilleur moyen de garder le dépôt, c'est d'accepter de mourir. On en a parlé dans l'enseignement de la semaine dernière. Accepter de mourir. Accepter d'être crucifié. Paul lui-même a dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire dans ce corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tu dois accepter de mourir. La meilleure manière de garder la foi, c'est d'accepter de mourir à soi-même. Accepter de mourir à ses projets. Accepter de mourir à ses affaires. Accepter de mourir à sa carrière. Accepter de mourir à ses propres désirs. Accepter de mourir. Il faut que le moi soit crucifié. Et l'une des plus grandes difficultés, et c'est ce qu'on avait enseigné, l'une des plus grandes difficultés que les enfants de Dieu rencontrent face à la tentation, parce que souvent ils ne résistent pas, c'est parce que leur moi n'a pas été crucifié. Ma famille, mes projets, ma vie, c'est pas ta vie. Depuis le jour où Christ est rentré dans ta vie ne t'appartient plus. Vous me suivez? Ta vie ne t'appartient plus. J'ai été crucifié. Il y a un pasteur qui dit, ta vie c'est comme une voiture. C'est qui est au volant de la voiture? C'est toi ou c'est Jésus? Si c'est toi qui es au volant, Jésus-Christ est où? Il est sur le siège passager et tu l'emmènes où tu veux? Quand tu sors et que tu vas faire n'importe quoi, Jésus-Christ est à côté, pourquoi tu l'emmènes aussi avec toi? Laisse Jésus prendre le volant de ta vie. J'aime bien cette image. J'aime bien cette image. On va finir, on va clôturer avec, avec un passage qui est très important. Sur le chemin de la persévérance, on peut encore dire beaucoup de choses là-dessus, mais sur le chemin de la persévérance, pour garder la foi, garder le dépôt, il y a deux attitudes très importantes qu'on doit adopter. Et il y a une personne dans la Bible qui s'appelle Isaac, qui a eu cette attitude et qui a persévéré. C'était un homme de foi. On va rapidement lire le passage, ensuite on va clôturer. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 26, au verset 15. Chapitre 26, verset 15, il est décrit ceci. C'est une belle histoire. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits. Isaac creusa de nouveau les puits. Est-ce qu'on peut dire « creusa de nouveau les puits » Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore, est-ce qu'on peut dire creusèrent encore, dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Cette fois-ci, les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits. Est-ce qu'on peut dire creusèrent un autre puits? Au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits. Est-ce qu'on peut dire creusa un autre puits? Pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Ah, j'aime beaucoup ce passage parce que Isaac ne lâcha rien. On le disputa, on le querella. Il creuse et il creuse. Quand il trouve de l'eau vive et de l'eau pure, on lui prend ça, on lui arrache. On vient, on le dispute. Abimélec le chasse. Et à un moment, il dit, il se transporta de là. C'est-à-dire, il partit. Là, il y avait trop de problèmes, il partit à un autre endroit. Et là, il creusa un autre puits. Il creusa un autre puits. On lui cherchait tout le temps des querelles, mais il persévérait. Il se disait, je vais finir par trouver un puits qui sera à moi. Le premier, un des puits qu'il trouva, il l'appela Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Un autre, il l'appela Sitna. D'ailleurs, ce sera intéressant d'aller chercher la signification de ces mots. Mais le jour où il trouva un puits, où personne ne lui trouva des problèmes, il l'appela Rehoboth. Rehoboth, qu'est-ce que ça veut dire, Rehoboth? L'Éternel m'a maintenant mis au large. Et nous prospérerons dans le pays. Rehoboth. Rehoboth, c'est cette assurance que Dieu t'a distingué et t'a approuvé. Rehoboth est cette relation intime que tu as avec Dieu et que personne ne peut plus venir t'enlever. Rehoboth est ce dépôt précieux dans lequel tu sais que ta prospérité est cachée. Rehoboth est cette parole que tu as entendue du Saint-Esprit par rapport à ta vie et tu sais que ta réussite et ton bonheur sont contenus dans cette parole. La maison du bâtisseur, c'est notre Rehoboth. C'est notre Rehoboth. Le jour où je priais par rapport à notre vie, j'entendis le mot bâtisseur. Je suis celui qui bâtit. Voici ce sur quoi tu vas te baser pour commencer à travailler. Rehoboth. Et je sais que ici, Dieu nous mettra au large. Le temps viendra où Dieu nous distinguera. Et ça, il faut y croire. C'est notre Rehoboth. Et aujourd'hui, ça c'est ma foi. Et aujourd'hui, ça c'est ma foi. Qu'aujourd'hui, si tu saisis cette parole-là et que tu rentres à la maison, Dieu te mettra au large. Le temps viendra où Dieu te distinguera. Mais si tu gardes la foi, si tu gardes le dépôt et que tu continues de persévérer, le temps viendra où tu te tiendras ici et tu témoigneras devant les gens en disant, vous vous rappelez, j'avais commencé comme ça, mais voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Voici comment Dieu m'a mis au large. Voici comment Dieu m'a fait prospérer. Voici comment Dieu m'a béni. Mais si tu lâches prise en cours de chemin, sur le chemin de la persévérance, personne ne continuera de combattre pour toi. Amen. Rehoboth, Dieu m'a maintenant mis au large. La première attitude que Isaac a eue, elle est toute simple. Il a été patient. Il a été patient. La patience est importante sur le chemin de l'accomplissement de ta destinée. Tu peux avoir une belle vision pour ta vie, tu peux la poursuivre, mais la patience est nécessaire. Tu dois être patient. Et Isaac a été patient. Tout comme toi, tu dois être patient. Beaucoup d'enfants de Dieu posent des actes trop tôt ou bien font preuve d'immaturité parce qu'ils manquent de patience. Dieu pourtant leur a dit que je vais me glorifier dans ta vie. Ils entendent l'évangile, ils entendent la parole, mais ils vont faire des choses abominables, ils vont faire des choses contraires à la foi parce qu'ils manquent de patience et de persévérance. Sois patient. Tourne ta mère, quelqu'un, dis-lui, sois patient un peu. Dis-lui. La vie te poussera souvent à brûler les étapes, mais il faut que tu sois patient et que tu continues de persévérer. Il faut que tu continues de persévérer. Jacques 1, verset 2 dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » La patience. Chapitre 5, verset 7. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. » Prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, comme Isaac, car l'avènement du Seigneur est proche. Ce que tu vois peut être grand dans ton esprit, mais cela prendra du temps pour que ça se réalise. Plus le rêve est grand, plus il prendra du temps pour que ça se réalise. Et pour ça, tu vas devoir être patient. Sur le chemin de la persévérance, parfois, on te proposera de te compromettre. On te proposera de coucher, on te proposera de voler. Comme l'autre qui m'avait demandé une fois, si vous voyez 100 milliards sur votre table, est-ce que vous allez prendre? Je lui dis non, je ne prends pas. Oh monsieur, vous aussi, vous allez prendre. Je ne prends pas, parce que ça c'est la compromission. Et c'est ma foi qui va être compromise. Personne ne me voit, mais Dieu me voit. Et Dieu saura après que ma foi est compromise et il ne peut plus travailler dans ma vie. La patience, il y a toujours un avenir dans tout ce qui est difficile. Tu sais que c'est difficile, mais tu sais que c'est le prix à payer. Et pour ça, tu dois être patient. La deuxième attitude que Isaac a adoptée, elle est toute simple. Sur le chemin de la persévérance, c'est qu'il a continué de porter la présence de Dieu avec lui. Il a gardé la présence de Dieu. Porter la présence de Dieu. La présence de Dieu est ta garantie pour le succès. La présence du Saint-Esprit dans ta vie est très importante. Et c'est pour cela que tu ne dois pas te compromettre. Cette présence qui est le Saint-Esprit est ton meilleur atout pour réussir. Tu peux être compétent, les gens aussi à côté de toi sont compétents. Tu peux être intelligent, les gens aussi autour de toi sont intelligents. Mais ce qui va te distinguer, c'est le Saint-Esprit. C'est que toi, quand on te regarde, on ne sait pas comment l'expliquer, on sait juste qu'il y a quelque chose en plus sur ta vie. C'est tout. Et ça, c'est la présence de Dieu. Amen. Si tu perds cette présence, tu ne seras pas différent d'un non-croyant. C'est la présence du Saint-Esprit qui non seulement te distinguera des autres, mais te permettra aussi de pouvoir réaliser des choses, enfin, d'avoir une créativité meilleure que celle des autres. Est-ce que vous me suivez? Et Satan sait que si tu perds cette présence, il sait que tu deviens comme les autres. C'est pour cela que Satan va faire tout pour ternir cette présence. Et comment fait-il pour ternir cette présence? En introduisant le péché. Le péché vient et quand le péché entre, le Saint-Esprit ne peut plus se mouvoir dans ta vie. Parce que tout simplement, il est saint. C'est un esprit saint. Et l'Esprit Saint se mouvoit et se glorifie que dans la sainteté. Et Satan sait ça. Et il sait que s'il arrive à introduire le péché dans ta vie, la faveur de Dieu ne peut plus être dans ta vie. Mais par la grâce de Dieu, lorsque tu te consacres, Dieu te regarde et Dieu dit, à nouveau je peux revenir travailler dans la vie de la personne. C'est pour cela qu'il est important de se consacrer. C'est pour cela qu'il est important de révérer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, depuis que Jésus-Christ est parti, est celui qui opère maintenant dans nos vies et dans l'Église. Et c'est pour cela qu'il faut honorer le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Et comment est-ce qu'on fait pour porter cette présence en permanence? Comment est-ce qu'on fait pour la garder? C'est très simple. Action de grâce. Reconnaissant. Être reconnaissant tout le temps. Tu dis, Seigneur, je traverse peut-être telle situation, mais je ne veux pas me plaindre. Je ne veux pas, comment dire, t'indexer. Je ne veux pas dire que c'est toi. Je te dis merci. Mon enfant est en bonne santé, j'ai un toit où dormir, j'ai la santé, alors tout va bien. Jésus-Christ est vivant, on avance. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante dans ta vie et comme dans la mienne. Et c'est la profondeur de ta gratitude qui déterminera ton attitude dans la vie. Et Dieu regarde ça. Dieu regarde ta capacité à être reconnaissant. Et quand on ouvre les livres des psaumes, les livres de David, c'était quelqu'un d'extrêmement reconnaissant. Tout le temps, il disait, Seigneur, merci. Merci, merci, merci. On va incliner la tête. Et je voudrais simplement que tu prennes quelques secondes pour dire au Seigneur, Seigneur, sur le chemin de la persévérance, accorde-moi la grâce non seulement d'être trouvé patient, parce que plusieurs fois j'ai fait preuve d'impatience, mais accorde-moi aussi la grâce de toujours faire preuve de reconnaissance, de toujours poser des actions de grâce. Merci pour la vie que j'ai. Même si elle ne ressemble pas à ce à quoi j'espérais, mais je te dis simplement merci. Et Seigneur, merci parce que tu m'accordes la grâce aussi de me consacrer. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelles que soient, Seigneur, les propositions que l'on pourrait me faire, je garderai le dépôt, je vais persévérer, je garderai le dépôt et je ne me compromettrai pas. Je garderai la foi. Parce qu'il dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne et que ta couronne, et ta couronne t'est garantie, elle t'attend et tu dois persévérer, tu dois te battre, tu dois continuer à garder la foi, tu dois t'accrocher jusqu'à ce que tu y arrives. Alléluia.
Ah, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce.
Merci, Père. Merci, Seigneur, pour la persévérance. Merci pour la foi sur le chemin de la réussite. Merci pour la foi sur le chemin de la persévérance. Merci pour le dépôt, Seigneur, que tu as déposé en moi le jour où je suis né de nouveau. Merci pour cette foi. Augmente ma foi, Seigneur, et accorde-moi la grâce, Seigneur, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les persécutions, Seigneur, de garder la foi, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, le niveau de ma gratitude déterminera mon altitude dans la vie. Je le crois, Seigneur, et je crois que tu as commencé une œuvre, Seigneur, dans nos vies et que tu la rendras parfaite, Seigneur. Seigneur, nous venons aussi devant toi et toutes les fois où nous avons fait preuve de faiblesse, toutes les fois où nous avons manqué de persévérance, toutes les fois où nous avons péché, toutes les fois où nous nous sommes détournés de toi, toutes les fois, Seigneur, où nous avons renoncé. Seigneur, merci parce que ta parole ne tombe pas dans une terre stérile mais fertile. Elle porte à nouveau du fruit afin qu'à nouveau je puisse retrouver, Seigneur, la force de me consacrer afin d'être trouvé fidèle devant toi, Seigneur. Ta parole, elle s'accomplira, celle que tu as prononcée à notre sujet, celle que tu as prononcée à mon sujet, Seigneur. Car désormais, la couronne, Seigneur, ô Dieu, m'est réservée. Je persévérerai, je travaillerai, je continuerai de me battre jusqu'à ce que je trouve, jusqu'à ce que j'atteigne l'objectif, jusqu'à ce que j'atteigne le but. Parce que assurément, j'ai une destinée en Christ. Oui, Seigneur, je ne suis pas le fruit du hasard. Non, je ne suis pas le fruit du hasard. Je suis né de Dieu, je suis sorti de Dieu. Juste les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle création en Christ et j'ai une destinée en Christ. Ma vie n'est pas destinée à l'échec et à la misère. Ma vie est destinée à rayonner. Ma vie est destinée à refléter la gloire de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui de mes yeux, je ne le vois pas. Peut-être qu'aujourd'hui de mes yeux, je ne vois pas l'accomplissement de ces promesses. Mais je sais qu'elles s'accompliront. Comme Habacuc, Seigneur, je me tiendrai au poste, je me tiendrai à mon poste, je veillerai et j'attendrai. Car Seigneur, cette prophétie a un temps qui est fixé. Quelle prophétie? Cette prophétie que tu as prononcée à mon sujet. Car tu dis dans Éphésiens 1:3 que l'Éternel nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et je te dis simplement merci. Oh Seigneur, mon Père, mon cœur est plein de gratitude envers toi. Parce que, oh Dieu, l'œuvre que tu as commencée, Seigneur, dans nos vies, tu la rendras parfaite. À toi soit toute la gloire, Seigneur, et la louange. Merci pour cette parole. Merci, Seigneur, pour ton peuple. Merci pour ton église. Merci pour la maison du bâtisseur. Et merci, Seigneur, parce que, assurément, Seigneur, cette église, Seigneur, est notre Rehoboth. Et le temps viendra où tu nous mettras au large et où nous prospérerons et tu nous distingueras dans notre génération, Père. À toi soit toute la gloire et la louange, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un qui est reconnaissant peut se lever et simplement acclamer le Seigneur? Oh, merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi, c'est toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.